Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, nous sommes dans la liturgie et nous avons la précédente rencontre, notre précédent dialogue, donc toi-même, frère Édouard d'Ivry et moi, frère Philippe Jaillot, notre précédent dialogue nous avait conduit vers le Père, à dire que le Père est source et fin de la liturgie. Nous avons parlé du mot piété, du mot bénédiction. Il faudrait parler maintenant de la place du Christ dans la liturgie, mais avant cela, je pense qu'il convient quand même de montrer qu'il y a un mot qui est important dans la vie chrétienne et qui a une place particulière dans la liturgie, c'est le mot « adoration ». Peut-être que le mot « adoration » aujourd'hui a quelque chose de piégé. Beaucoup pensent « adoration », c'est l'adoration du Saint-Sacrement, qui est un acte important dans la vie, vie chrétienne. Mais...
Ou même un mot, je dirais, trop commun. J'adore tel film, j'adore tel...
On dit qu'on y faut adorer que Dieu.
Oui, alors que normalement, tout le travail de la catéchèse a été pendant des siècles, depuis le début du judaïsme, de dire qu'on adorait que Dieu, le Dieu un, et trois fois saint du livre d'Isaïe. Et donc il y a eu une volonté d'exclure toute utilisation du mot « adorer », qui après, par le biais des médias, a fini par s'emparer de ce mot pour parler du dernier fan de musique ou des derniers films cultes, comme on dira, où on dit « j'adore », mais on comprend très bien que le mot est dévié à ce moment-là. « J'aime beaucoup ». À ce moment-là, il faudrait dire. Mais oui. Le mot « adorer » est la conséquence de cette bénédiction dont nous parlions tout à l'heure. Et le catéchisme résume très bien, dans le fond, la présence du Père dans la liturgie de l'Église, en disant « dans la liturgie de l'Église, Dieu le Père est béni et adoré comme la source de toutes les bénédictions de la création du salut, dont il nous a bénis en son Fils pour nous donner l'esprit de l'adoption filiale. » Et c'est trinitaire comme formulation, c'est tout à fait chrétien comme façon de comprendre cette bénédiction et cette adoration. L'adoration est quelque chose qui vient de l'homme, parce que l'homme se reconnaît créature par rapport à son créateur, et plus que cela, il se reconnaît sauvé à cause de sa situation existentielle qui a besoin d'un salut. Nous avons besoin d'un sauveur. Et donc, l'adoration reconnaît la primauté de Dieu non seulement comme le créateur par excellence de mon être, mais aussi le sauveur. Dieu seul sauve, Dieu seul peut me laver de mes péchés, Dieu seul peut me pardonner. Et de ce point de vue-là, il y a un mouvement vers le trois fois saint. Et l'adoration est un mouvement donc qui implique tout mon être et pas seulement mon esprit. Je crois que c'est beau de penser que nos corps ont besoin d'adorer.
D'une certaine façon, je trouve que très concrètement, pour qu'on ait bien en tête, adorer, en un sens, c'est presque, ça fait partie, c'est dans le premier acte du matin, c'est ça, le croyant qui veut pleinement adorer son Dieu, ben, du matin, il se tourne vers lui, il pense à lui, sa première pensée irait pour son Dieu, créateur et sauveur, c'est un peu ça que tu dis.
Oui.
Notre journée est marquée par désir intérieur.
Ce désir intérieur d'aller vers cette source et celui dont nous provenons, et c'est vrai que dans la liturgie juive, c'est très très fortement marqué, puisqu'on demande à chaque homme d'Israël de dire une centaine de bénédictions par jour, en commençant le matin, Baruch Ata Adonai, béni sois-tu Seigneur, et puis on ajoute une qualité qui m'a ouvert les yeux, qui m'a ouvert les sens, etc. Et toute la journée, on doit prendre les instants qui s'écoulent de notre vie pour en faire un sujet de louange, pour en faire un sujet de remontée vers celui qui nous bénit à l'origine et qui nous montre le chemin. Donc l'adoration est la façon de résumer tout ce mouvement de retour vers Dieu à chaque instant de la vie.
D'une certaine façon, quand tu parles des bénédictions dans la prière juive, dans la vie du juif, comme ça, ça me fait penser... les chrétiens, les catholiques en tout cas, vont célébrer ce qu'on appelle la liturgie des heures, le souci de sanctifier le temps, comme on dit, la sanctification du temps, c'est bien la même chose dont il s'agit, de dire Dieu porte l'homme en toutes choses.
Dieu porte l'homme et tout le temps devient consacré à Dieu. Et c'est sûr que cette liturgie que l'on rencontre, bien sûr, dans les heures maintenant qui sont accessibles à tous les fidèles, mais qui ont été particulièrement mises en place dans la tradition monastique avec ces temps, les laudes, qui correspondent vraiment à la prière du matin, puis les divisions des heures, 3 heures après tierce, puis 3 heures encore après sexe, puis 3 heures encore après nonne, et puis la prière des vêpres au moment du coucher du soleil.
L'action de grâce du soir.
L'action de grâce du soir, et puis les complis avant de se coucher. Donc c'est un ensemble extrêmement bien composé, plus la prière même de nuit pour les plus vaillants, ce qu'on appelle les vigiles, ceux qui veillent, et cet ensemble de 8 prières par jour ont structuré la vie chrétienne et ont donné avec l'Eucharistie les grands élans du cœur de telle sorte que l'adoration ne soit pas purement, je dirais, ponctuelle, l'adoration du Saint-Sacrement, c'est très bien, puisque par antonomase, comme disait Paul VI, c'est-à-dire par excellence, la présence de Dieu est dans l'Eucharistie. Et c'est pour cela qu'elle mérite à elle seule une adoration spéciale, l'adoration la plus éminente, mais tout le reste de notre vie mérite pareillement un retour à Dieu. Et donc mérite qu'on adore, et nous chrétiens, nous savons que c'est un Dieu 1 et 3 fois 5 que nous adorons, et par la révélation, nous savons qu'il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul et unique Dieu. Ne pas penser que nous adorions 3 dieux, c'est le même et unique Dieu que nous adorons, et de ce point de vue-là, qui nous unit avec les grands croyants de ceux qui croient en un Dieu unique.
Ça signifie bien cette liturgie des heures, cette sanctification du temps, ces bénédictions nombreuses dans la journée. Cela signifie bien que nous voudrions, le croyant veut que toute sa vie, tout son temps, soit remis entre les mains de Dieu, soit une louange à Dieu, une relation à Dieu, sachant qu'il y a l'autre versant, et je pense que la messe nous le dit bien, Dieu nous envoie porteur de lui-même, si on peut dire, à la fin de la messe, nous sommes envoyés, c'est-à-dire que se tourner vers Dieu dans la prière a un autre versant pour la plupart des chrétiens, c'est d'aller au monde porter Dieu.
Porter Dieu, exactement, et c'est là où nous rencontrons la mission du Fils. Le Fils bien-aimé du Père a voulu nous instruire et nous permettre de découvrir que Dieu attendait des adorateurs en esprit et en vérité, comme dit Jésus dans le dialogue avec la Samaritaine, mais il a donné des formes concrètes pour que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité, être fils dans le Fils pour le réaliser, car comme dit Jésus dans Jean chapitre 15, dans l'évangile de Saint Jean, verset 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». C'est la découverte que les bras nous tombent pour adorer le trois fois saint. Nous sommes trop petits, nous sommes trop marqués par le péché, si Jésus ne nous prend pas en lui pour nous permettre cette offrande au Père et ce retour vers le Père qu'il réalise dans son sacrifice à la messe, qui est l'actualisation de ce sacrifice qu'il a vécu sur la croix, mais qui nous donne l'occasion de le vivre avec lui et de nous offrir et donc faire une adoration qui est en même temps une offrande, c'est-à-dire pas seulement reconnaître l'identité de Dieu trois fois saint, mais nous associer à cette offrande de retour vers le Père. Il y a un mouvement dynamique, un mouvement qui n'est pas purement, je dirais, contemplatif. Même si le mouvement contemplatif englobe tout dans l'adoration, il y a un mouvement d'offrande, de don, de retour vers le Père.
Oui, sans moi, vous ne pouvez rien faire, tu disais. Pour beaucoup de gens, nous avons tellement ce désir d'être capable par nous-mêmes, cette autonomie du sujet dont on parlerait, que c'est difficile à entendre, se recevoir de Dieu, se dépendre de Dieu. Moi, je trouve au contraire que c'est magnifique de se recevoir de Dieu.
C'est magnifique, c'est une conversion, c'est-à-dire que l'homme, par la société, est transformé très vite en une espèce d'entité autoréférentielle, comme dirait le pape François. Et à cause de cela, se replier replie sur lui-même, se cache d'une certaine manière des réalités qui le dépassent et qui le transcendent, puisqu'il est tout le temps centré sur lui-même, sa référence c'est lui, et ce décentrement c'est une conversion. Là, le mouvement donc que l'on voit dans le judaïsme et dans le christianisme, c'est d'abord un mouvement de teshuvah, c'est-à-dire un mouvement où on se détourne de notre idolâtrie propre, où on s'adore soi-même pour se tourner vers le tout autre qui nous transcende, mais qui nous aime en même temps. C'est un Dieu d'amour qui se révèle et qui nous dresse, qui nous hisse. Nous sommes capax dei, capables de Dieu, disait saint Augustin, mais non pas par nos propres forces, parce que Dieu nous hisse vers lui et nous tend les mains par le Rédempteur pour nous hisser vers lui.
L'adoration et décentrement, comme tu le dis, décentrement donc pour nous tourner vers Dieu, mais quand on adore, finalement, quand on se décentre de nous-mêmes, quand on se retourne vers Dieu, c'est pour nous retrouver pleinement nous-mêmes. C'est ce que la liturgie permet à l'homme d'effectuer, c'est ce vrai mouvement, mais de se retrouver comme Dieu nous fait être dans toute notre beauté.
Oui, exactement. Le prophète Isaïe dit cela en quelques mots très simples. « Réditez ad cor, revenez à votre cœur. » Et en retournant donc à notre cœur, nous trouvons le cœur d'un Dieu qui bat avant nous et qui nous aime avant nous.
Retournons à notre cœur, frère Édouard. Merci. Et nous terminons ce nouveau dialogue.